Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Les députés britanniques ont contrecarré les plans de Boris Johnson. Une série de camouflets et un Brexit dur qui s'éloigne. Nous reviendrons sur la journée d'hier au Parlement à Londres. Ce sera dans un instant. Nous reviendrons aussi sur la proposition de Christine Lagarde, future présidente de la BCE. La dirigeante actuelle du Fonds monétaire international veut un forum ouvert aux citoyens et aux citoyennes. Et puis sur quel point vont se battre les syndicats en France à propos de la future réforme des retraites? Réponse dans ce journal. Alors que les partenaires sociaux commencent à être reçus aujourd'hui à Matignon. Boris Johnson a donc multiplié les revers hier au Parlement britannique. Privé de majorité, lâché par une partie des conservateurs, le Premier ministre a été empêché d'appliquer un Brexit sans accord, de dissoudre le Parlement et de convoquer des élections législatives. Antoine Gignot.
C'est une triple défaite pour Boris Johnson. Il promettait de faire sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne le 31 octobre prochain. Quoi qu'il arrive, il ne pourra probablement pas mener son projet jusqu'au bout. Le texte voté hier soir, et qui doit maintenant être validé par les Lords, oblige le gouvernement britannique à demander un report du Brexit si aucun terrain d'entente n'est trouvé dans les semaines qui viennent avec les chefs d'État européens. Mais le Premier ministre a aussi perdu dans la bataille sa majorité et le soutien d'une vingtaine de députés conservateurs rebelles. Et sa tentative de dissoudre le Parlement en organisant des élections anticipées s'est soldée également par un échec. Les travaillistes et les libéraux démocrates le soupçonnent d'avoir voulu déclencher le scrutin pour se débarrasser des parlementaires et organiser en douce le Brexit. Jeremy Corbyn, le chef de file de la gauche, le compare à la méchante reine qui propose à Blanche-Neige une pomme empoisonnée. Fin de séance donc au milieu des moqueries pour Boris Johnson, dirigeant sans pouvoir d'un pays qui continue de faire partie de l'Union européenne.
Eux veulent reprendre du pouvoir. Les populistes du mouvement 5 étoiles en Italie confirment leur alliance avec le parti démocrate de centre-gauche. Giuseppe Conte conserve ainsi son poste de président du Conseil. Il a présenté hier le nouveau gouvernement italien au président Mattarella. Gouvernement qui va prêter serment ce matin. Il est composé de 21 ministres avec un objectif, éviter la récession économique de l'Italie. La commission des affaires économiques du Parlement européen valide la désignation de Christine Lagarde comme présidente de la BCE, la Banque Centrale Européenne. Ce vote est consultatif. Hier, Christine Lagarde s'est adressée aux députés européens, proposant notamment d'ouvrir la BCE aux citoyens. Elle se dit même favorable à la tenue d'un forum ouvert à toute la société civile. C'est une demande de longue date de l'ONG Positive Money Europe que dirige Stanislas Jourdain.
Ça, c'est assez positif et c'est vrai que ça dénote pas mal avec le langage et les discours de Mario Draghi qui était vraiment dans une communication orientée vers les marchés, pour les marchés. Et nous, on est une organisation où on tente un peu de faire l'interface entre les citoyens et les institutions. Et pour nous, c'est vrai que ça nous prend beaucoup d'énergie en fait de devoir expliquer les acronymes, le langage compliqué des banques centrales. Et c'est vrai que nous, ça nous aiderait en fait pour influencer la BCE si davantage les citoyens pouvaient comprendre en fait. Quand la BCE dit on va lancer du quantitative easing ou des TLTRO, je veux dire, les gens, ils peuvent rien y comprendre, mais c'est bien normal. Alors qu'en fait, on pourrait tout simplement dire que la BCE fait de la création monétaire. Et ça, en fait, les citoyens peuvent le comprendre. Donc, je pense que ce qui est intéressant, c'est que si la BCE veut vraiment changer de fusil d'épaule là-dessus et adopter un langage très clair, elle va finalement devoir être obligée d'appeler un chat, en fait, et de dire très clairement, oui, nous créons la monnaie, oui, nous l'achetons en échange d'actifs que l'on donne seulement aux banques et seulement aux acteurs financiers. Et donc, c'est pour davantage comprendre qu'effectivement, ils ne bénéficient pas directement des bénéfices de la politique monétaire, alors qu'en fait, les banques, les investisseurs et les assurances, elles, peuvent en bénéficier. Donc, c'est ça, justement, qui sera intéressant, c'est que ça va forcer les représentants des banques centrales à se confronter aux questions difficiles en fait du public et auxquelles aujourd'hui ils n'ont pas de réponse.
Stanislas Jourdan, interrogé pour France Culture par Marie Viennot. Les tensions entre le Venezuela et la Colombie augmentent. Cette nuit, les autorités colombiennes se sont dites prêtes à défendre leur souveraineté face à ce qu'elles qualifient de menace du président vénézuélien Nicolas Maduro. Ce dernier avait accusé Bogota de se servir de l'annonce du retour des anciens chefs des FARC pour déclencher un conflit militaire avec le Venezuela. La dissidence des FARC, justement, en Colombie, elle se structure. Son ancien numéro 2, Ivan Marquez, vient d'annoncer la création d'un mouvement politique clandestin. Il porte le nom de Mouvement Bolivarien pour la Nouvelle-Colombie et il œuvrera donc en secret. Marquez, ancien chef négociateur de l'accord de paix signé en 2016, est activement recherché par la justice colombienne. Ce projet de loi, nous n'allons pas le préparer seuls, mais nous allons le faire en écoutant les partenaires sociaux, en écoutant les Français. Voici la promesse faite hier par Édouard Philippe. Le Premier ministre reçoit à partir d'aujourd'hui les partenaires sociaux à Matignon. Un nouveau cycle de négociations sur la réforme des retraites. Un nouveau cycle de négociations sur cette réforme qui est toujours en discussion donc avec les partenaires sociaux. Et il s'agit de supprimer, je vous le rappelle, 42 régimes spéciaux. Reste maintenant à savoir à quel âge la retraite débutera en France. Y aura-t-il un âge pivot à 64 ans ou un allongement global des cotisations ? L'exécutif veut se montrer ouvert et tente de charmer certains syndicats, un syndicat en particulier, Annabelle Grelier.
Était-ce pour faire un appel du pied au patron de la CFDT, Laurent Berger, que le président Macron avait fait une petite volte-face fin août sur le recul de l'âge à la retraite ? L'intéressé, en tout cas, assure qu'il ne se fera pas amadouer avec si peu. Certes, la CFDT est le seul syndicat favorable à un système universel, mais Laurent Berger ne veut pas pour autant de recul de l'âge à la retraite, ni d'allongement supplémentaire de durée de cotisation. Pas besoin, estime-t-il. Pour donner son aval à cette réforme, ses conditions portent plutôt sur une pension minimum à 100% du SMIC, une retraite progressive ou encore la prise en compte de la pénibilité. Les autres syndicats ne seront pas aussi conciliants. Les plus durs à convaincre seront Force ouvrière et la CGT qui ont déjà assorti leur venue d'un préavis de grève. Force ouvrière est opposée au principe d'un système unique par points. Son patron Yves Verrier estime qu'on peut améliorer les dispositions dans le cadre des régimes existants. Son homologue de la CGT, Philippe Martinez, tient le même discours. Il y a besoin d'améliorer ce système, mais pas de tout changer, affirme-t-il, jugeant que le système par points est injuste. Du côté du gouvernement, on répète à l'envi que depuis la crise des Gilets jaunes, on a compris la leçon. Plus de verticalité du pouvoir. Édouard Philippe assure que pour cette réforme des retraites, on va écouter, questionner, apprendre et tenir compte de ce qui aura été entendu. Reste à savoir quelles voix porteront et vers qui le Premier ministre tendra l'oreille.
Premier rendez-vous donc à Matignon ce matin à 10h30, ce sera pour Force ouvrière. Le ministre de l'Agriculture refuse l'instauration de zones sans pesticides dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation en France. Une telle mesure empêcherait l'agriculture française d'instaurer l'autonomie alimentaire du pays, selon Didier Guillaume, qui estime que cela gonflerait les importations. En août dernier, le maire de la commune de Langouette en Ille-et-Vilaine avait tenté d'interdire l'épandage de produits phytosanitaires à moins de 150 mètres des habitations. Arrêté municipal qui avait été suspendu par la justice. Il l'a dit, Cédric Villani est officiellement candidat à la mairie de Paris pour les prochaines municipales. Prétendant malheureux à l'investiture de La République En Marche, il enfonce ainsi une épine dans le pied du candidat désigné, Benjamin Griveaux. Député de l'Essonne, mathématicien, Cédric Villani bénéficie d'une notoriété montante auprès des Parisiens. Retour sur cette soirée de lancement hier soir à Paris, ce sera dans le journal de 7h. Avant cela, penchons-nous sur un livre qui a fait réagir hier le pape François dans l'avion qui l'amenait au Mozambique. Bruce de Galzin était présent pour France Culture.
Comment l'Amérique veut changer de pape ? C'est le titre du livre que son auteur, le journaliste de la Croix Nicolas Senèse, a offert à François dans l'avion papal. En prenant en main l'ouvrage, le pape a spontanément réagi. « Pour moi, c'est un honneur que les Américains m'attaquent », a-t-il dit, ajoutant « Ce livre est une bombe ». Nicolas Senèse y explique comment une partie du catholicisme américain a voulu se débarrasser de François en multipliant les attaques contre lui. Il revient notamment sur l'affaire Vigano, cet ancien nonce apostolique très conservateur aux États-Unis, qui a appelé dans une lettre à la démission de François, affirmant qu'il avait couvert les actes pédophiles d'un cardinal. Dans son livre, le journaliste revient plus largement sur les raisons qui opposent une partie des Américains au pape, la critique du libéralisme, la peine de mort ou encore les relations avec la Chine communiste. Le journaliste de la Croix va même plus loin en enquêtant sur cette frange de catholiques riches et très conservateurs qui lèvent des fonds pour contrer les idées du pape et préparent déjà un nouveau conclave pour y placer leur candidat. Dans une tentative de déminage, le porte-parole du pape a tenu à relativiser les mots de François, expliquant que le pape avait voulu dire qu'il considérait toujours comme un honneur les critiques, et particulièrement d'une nation importante.
C'est Bruce de Galzin pour France Culture. La pluie s'étend ce jeudi sur le nord de la France, du sud de la Normandie jusqu'à la Lorraine ce matin, puis jusqu'à la Franche-Comté dans l'après-midi. Ailleurs, les nuages seront de plus en plus présents, notamment sur le Pays Basque. Côté température, Météo France prévoit dans la matinée 15 degrés à Brest, 17 à Lille, Paris, Strasbourg, 19 degrés à Bordeaux et à Lyon, 25 degrés ce matin à Marseille.